France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Anouk Millot, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet, Sacha Mattei et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Mège. Deux semaines après l'enlèvement de Nicolas Maduro par l'armée états-unienne, nous consacrons toute cette semaine au Venezuela et à son saut dans l'inconnu, avant de faire demain l'examen de la survie du chavisme, d'évoquer mercredi l'effondrement du pétrole et de parler jeudi de l'exode de la population. On commence avec les relations entre le Venezuela et les États-Unis.
Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir et que nous nous retrouvions dans la même situation que celle que nous avons connue pendant de longues années.
Ce qu'ils ont fait est hors la loi. Le président des États-Unis ne doit pas faire d'ingérence. Ils ont violé tous les droits. Il a violé la Charte des Nations Unies.
Le peuple vénézuélien ne mérite pas ce traitement. Il ne mérite pas cette agression de la part d'une puissance nucléaire. Mais notre réponse sera diplomatique. Et nous utiliserons notre diplomatie bolivarienne de paix pour défendre la paix au Venezuela, la stabilité du Venezuela, l'avenir, et pour défendre notre indépendance, mais aussi notre souveraineté sacrée et inaliénable.
Les Vénézuéliens ont toujours voulu la liberté et la souveraineté, c'est une évidence, mais jusqu'à présent, ce sont eux qui en décidaient. En deux siècles, le pays a connu une centaine d'insurrections d'esclaves et de révoltes populaires, une cinquantaine de soulèvements pour l'indépendance avant même Bolivar. La révolution bleue a renversé celle d'avril qui était elle-même s'était vue supplantée par la révolution de Coro, écrit Miguel Bonnefoy dans Le rêve du jaguar. En deux siècles, il y a eu des milliers de groupes paysans armés, de réformes agraires, des centaines de mouvements syndicaux, des grèves nationales, presque 30 constitutions écrites. En deux siècles, une dizaine de coups d'État, jusqu'à celui raté en plein milieu d'une nuit de 92, de jeunes militaires inspirés par cette mémoire collective et menés par un jeune homme au bonnet rouge, Hugo Chavez, qui deviendra président 6 ans plus tard. L'attaque états-unienne le 3 janvier dernier a donc ouvert une nouvelle phase, une forme de mise sous tutelle. « Nous allons gouverner le Venezuela », a déclaré Donald Trump dès le lendemain de l'opération et ne se cache pas le moins du monde de vouloir la main mise sur la commercialisation de son pétrole. Bonjour Serge Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien car il s'agit de replacer cette attaque dans une histoire plus longue, à la fois celle des relations entre le Venezuela et les États-Unis, mais l'histoire du Venezuela à laquelle que vous connaissez très bien et qu'il vous importe de restituer en tant que docteur de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseignant au magistère de relations internationales et d'action à l'étranger. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Et bienvenue aussi. Vous êtes journaliste au Monde diplomatique, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du programme Amérique latine et Caraïbes. Alors on ne sait plus trop où poser les yeux en ce moment. C'est vrai, ce mois de janvier, les regards se sont déjà tournés, j'ai l'impression, vers le Groenland, mais il est important de continuer à suivre jour après jour ce qui se passe au Venezuela. Alors on doit se contenter sans doute d'instantanés de la situation pour l'instant, mais est-ce qu'à ce jour, on commence à voir se dessiner, Christophe Ventura, une forme de contrôle politique états-unien sur le Venezuela, les prémices d'une mise sous tutelle du pays et de ses 29 millions d'habitants?
Effectivement, on commence à voir un peu ce que recouvre la mise sous tutelle, enfin l'expression de mise sous tutelle du Venezuela, avec en même temps quelque chose qui est assez curieux, c'est qu'il semble que pour des raisons très différentes, à la fois Washington et Caracas trouvent un terrain d'entente à ce que les choses se passent comme ça aujourd'hui pour un temps indéterminé. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on peut dire, à mon avis, les choses suivantes. La première chose, c'est qu'après la décapitation, disons, de la tête de l'État vénézuélien avec l'enlèvement de Nicolas Maduro, je crois que ça a été un choc, une sidération pour le pouvoir vénézuélien, qui a pris aussi la mesure de la puissance américaine. Je crois qu'il faut pas sous-estimer ça, hein, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que c'est la première fois qu'un pays sud-américain est bombardé, attaqué militairement par les États-Unis. Avant, si j'ose dire, c'était malheureusement le sort et la malédiction des pays caribéens, insulaires, centra-américains et mexicains. Mais l'Amérique du Sud, c'est la première fois qu'elle est touchée. Un pays, le Venezuela, si proche du Brésil, si proche des autres, etc. Donc, je crois qu'il faut avoir ça en tête. La deuxième chose, c'est que pour le pouvoir vénézuélien, sans Nicolas Maduro, d'ailleurs, le pouvoir vénézuélien qui continue de considérer que Nicolas Maduro est le président constitutionnel du pays et qui demande son retour, etc. L'urgence absolue, semble-t-il, c'est de conserver son unité. C'est-à-dire, son unité, c'est quoi? C'est essentiellement de conserver son ADN, qui est celle d'un pouvoir civilo-militaire. C'est-à-dire un pouvoir, dans le gouvernement, on a des militaires et on a des civils issus du mouvement politique bolivarien. Et pour eux, je pense que la première chose à faire, c'est de conserver, pour survivre au pouvoir, cette unité et qu'il n'y ait pas d'explosion et de divergence. À partir de cela, ils sont prêts à négocier avec les Américains parce qu'ils sont en position de faiblesse. Et les Américains, pour des raisons qui ne sont pas du tout celles-là, qui sont plutôt, à mon avis, le fait qu'ils ont fait le calcul qu'ils n'étaient pas capables, en fait, de les remplacer sur place, ils ont donc décidé de tenter cette expérimentation à laquelle nous assistons, qui est de les transformer, finalement, en un pouvoir qui va collaborer avec eux sur un certain nombre de dossiers. Pour l'instant, c'est l'économie, ils peuvent s'entendre, mais ce sera plus compliqué bientôt quand on va passer aux choses politiques, avec la question des migrants, la question des guérillas qui sont à la frontière avec la Colombie et une série d'autres choses où on va voir jusqu'où le fait que ces intérêts coïncident peuvent continuer dans ce sens-là.
La présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a tant vilipendé les États-Unis quand elle travaillait avec Nicolas Maduro, multiplie aujourd'hui les conversations qu'elle dit longues et courtoises avec la Maison-Blanche. Hier, elle a limogé le ministre de l'Industrie, Alex Saab. Est-ce qu'on peut imaginer, Serge Olivier, ou est-ce que vous voyez se dessiner quelque chose qui ressemblerait à une purge du régime? Parce qu'on dit plutôt, et des chercheurs qui, aujourd'hui, dans la région, estiment que l'administration américaine ne veut pas reproduire les erreurs commises en Irak, par exemple, cette façon qu'on a eu de purger et l'armée et le régime de la plupart de ces éléments, leurs éléments.
Oui, elle a participé à des purges déjà depuis un certain temps, depuis qu'elle est au gouvernement et sous Maduro. Elle a avec son frère Jorge Rodriguez, qui est maintenant qui est aussi une personne très importante du système chaviste et qui est président de l'Assemblée nationale. Ils ont opéré des purges, donc notamment dès 2018, d'un clan nommément français, parce que lié à des études en France, même si elle-même a étudié aussi à Paris. Elle est habituée de ça. Par ailleurs, donc le New York Times, par exemple, a fait état de fuite, disant que chaque jour elle était au téléphone avec Marco Rubio. Donc on voit se dessiner, effectivement, comme le disait Christophe Ventura, une collaboration entre cet acteur du chavisme qu'est Delcy Rodriguez, qui n'est pas inculpé dans l'acte d'accusation à New York qui vise Nicolas Maduro, et d'autres dignitaires du régime, notamment le fameux ministre de l'Intérieur, José do Cabello, qui est présenté comme étant l'homme le plus central des réseaux les plus mafieux et violents et armés du Venezuela, et qui est historiquement sur une ligne radicale vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des forces dites contre-révolutionnaires. Donc en tout cas, pour l'instant, on voit se dessiner effectivement une collaboration pragmatique, a priori, avec de l'administration Trump, avec une administration qui est là, qui est tout à fait dysfonctionnelle, qui est très largement corrompue, qui est composée de plein d'acteurs qui ont reçu des délégations de l'État pour s'enrichir sur des rentes économiques dans l'arc minier du sud du pays, de différents trafics, y compris des trafics de drogue, même si ce n'est pas ce que l'administration Trump a dit, on va y revenir, pour justifier ses frappes contre des bateaux dans la mer des Caraïbes. Bref, tout cet État failli autoritaire, qui est en fait un système de délégation de compétences et de corruption, c'est quand même l'administration en place. Et c'est quand même celle qui, à court terme, permettrait d'assurer la première condition à la relance de l'exploitation pétrolière, qui est la stabilité.
Donc Delcy Rodriguez, tous les jours ou presque, en lien par téléphone avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, par ailleurs artisan de cette intervention militaire états-unienne à Caracas, et qui a détaillé son plan de transition au Venezuela.
Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos.
La première étape consiste à stabiliser le pays. Nous ne voulons pas qu'il sombre dans le chaos. Notre embargo fait partie intégrante de cette stabilisation et c'est la raison pour laquelle nous disposons d'un levier puissant. Deux autres navires ont été saisis aujourd'hui. Nous sommes sur le point de conclure un accord pour récupérer tout le pétrole. Ils ont du pétrole bloqué au Venezuela et ils ne peuvent pas le déplacer en raison de notre embargo et des sanctions. Nous allons prendre entre 30 et 50 millions de barils de pétrole. Nous allons le vendre sur le marché, au prix du marché et non au prix réduit dont bénéficiait le Venezuela. Nous contrôlerons la répartition de cet argent afin qu'il profite au peuple vénézuélien et non à la corruption ou au régime. La deuxième phase sera la phase de reprise qui consistera à garantir que les entreprises américaines, occidentales et autres aient accès au marché vénézuélien de manière équitable. Parallèlement, nous commencerons à mettre en place un processus de réconciliation nationale au Venezuela afin que les forces d'opposition puissent être amnistiées et libérées des prisons ou ramenées dans le pays et commencer à reconstruire la société civile. Et enfin, la troisième phase sera bien sûr celle de la transition.
Mais la première phase, c'est donc bien celle de la mainmise sur le pétrole. On va en parler. Est-ce que Marco Rubio, d'ailleurs, Christophe Ventura, s'est déplacé, lui qui a multiplié les allers-retours dans la Caraïbe depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Est-ce qu'il a parfois répondu à des appels de Nicolas Maduro à privilégier la diplomatie?
Alors, Marco Rubio, c'est un homme clé dans tout ce que nous observons aujourd'hui. Il faut savoir que c'est lui qui est le stratège, le théoricien et disons celui qui a mis en œuvre tout ce qu'on a vu entre la nuit du 2 et 3 janvier. C'est un partisan de la ligne dure. Trump, depuis qu'il est revenu au pouvoir en janvier 2025, il a oscillé en permanence. Il y a eu entre janvier et septembre, disons 2025, Trump qui hésitait entre sa ligne dure qu'incarne Monsieur Rubio, donc secrétaire d'État américain, bien connu pour sa lutte contre le communisme et le changement de régime à Cuba. Il a fait toute sa carrière politique là-dessus. Il incarne ça. C'est un néoconservateur au sens traditionnel américain. Il fait partie de l'alliage du pouvoir de Trump. C'est son aile néoconservatrice. Mais Trump avait d'autres options avec Monsieur Grenell, par exemple, qui est son risque spécial, qui lui est allé beaucoup, contrairement à Monsieur Rubio, puis vous me posez la question, Grenell est allé beaucoup au Venezuela entre janvier et septembre, grosso modo, pour négocier avec Nicolas Maduro un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui dans ce que Rubio dit, c'est-à-dire en fait la question du pétrole. Avant l'enlèvement de Maduro, les Vénézuéliens étaient déjà prêts et préparés à négocier ça avec les Américains. Ils n'ont eu le cesse de le dire et ça se discutait déjà. Et donc Maduro, de son côté aussi, mettait dans la balance l'ouverture ou la réouverture du marché pétrolier vénézuélien pour les Américains en échange qui reste au pouvoir. Donc de ce point de vue-là, c'est pas ça l'élément nouveau. C'était déjà avant l'enlèvement, il y avait déjà ces questions-là. Ce qui est différent, c'est que pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, Trump à un moment donné a tranché pour la ligne dure. C'est ce qu'incarne Marco Rubio. Je pense qu'il va aller au Venezuela à un moment donné. On parlait de Delcy Rodriguez dans l'échange précédent. Oui, Delcy Rodriguez parlait beaucoup, surtout à Marco Rubio, mais parce qu'elle était aussi mandatée par ça, par Nicolas Maduro lui-même. C'est-à-dire que c'était son boulot, en fait, que de négocier et de préparer les pourparlers. C'est elle qui préparait les discussions entre Trump et Maduro en direct. C'est elle qui négociait avec Jorge Rodriguez, le président de l'Assemblée nationale et donc son frère, au Qatar, dans les épisodes précédents. Donc, la liaison, elle s'est faite par là, en fait, et Rubio a considéré que dans ce régime qu'il déteste et qu'il voudrait voir disparaître, mais dont il pense de manière pragmatique qu'il ne peut pas partir parce qu'il existe, il a des liens, il a aussi des bases sociales, etc., et que l'opposition ne peut pas le remplacer tout de suite, il a considéré qu'elle était l'interlocutrice avec laquelle il pouvait discuter et préparer une feuille de route aujourd'hui. Ça, c'est la situation qu'on a aujourd'hui, et donc les relations entre Mme Rodriguez et Rubio, elles existent.
Et ça, qu'est-ce qui a pu convaincre Delcy Rodriguez, Serge Olivier, de finir par discuter avec les États-Unis presque au même titre que on a vu celle qui a obtenu le prix Nobel de la paix, opposante de longue date. Oui, voilà, c'est ça, les Machado, qui il me semble que l'opposition au Venezuela et à Hugo Chavez et à Nicolas Maduro a souvent été dans une forme, non pas de collusion, mais d'alliance avec les États-Unis. Pourquoi Delcy Rodriguez, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle finisse par prendre cette décision-là?
Alors, à court terme, elle n'a pas le choix, comme l'a dit le 3 janvier. Trump, elle est elle-même menacée, en fin de compte, comme tous les autres dignitaires chavistes, par les États-Unis suite à leur démonstration de force et l'enlèvement de Nicolas Maduro et de Cilia Flores, son épouse. Donc, c'est la phrase qu'il a dite, la première, il a dit, bon, elle est gracious, elle est reconnaissante, et deuxièmement, elle n'a pas le choix, en fait. Donc, c'est son intégrité physique hein, qui est dans la balance. Et puis, effectivement, pourquoi le choix de Delcy Rodriguez? Bon, d'abord, constitutionnellement, parce qu'elle est vice-présidente, donc il y a un effet d'opportunité. Parce que constitutionnellement, ça donne une fiction de continuité. Et aussi, effectivement, comme l'a dit Christophe Ventura, il y a des liens qui se sont liés donc entre les deux frères Rodriguez et les interlocuteurs internationaux. Au cours de tous ces simulacres, depuis assez longtemps, d'arbitrages internationaux qu'ont joué les chavistes pour jouer la montre, en fin de compte, avec les Norvégiens, avec les Qataris, mais au cours desquels des acteurs, les Rodriguez d'abord, ont créé des liens à l'étranger et créer des connivences, peut-on dire, ou du moins
des connivences
potentielles avec des acteurs étrangers, y compris les États-Unis. Et j'ajoute que depuis qu'elle est aux manettes de l'économie vénézuélienne, donc depuis 2018-19, Delcy Rodriguez a administré la réouverture du marché vénézuélien, qui en fait, de fait, est un État très libéralisé économiquement. C'est le salaire le plus bas d'Amérique latine à l'heure actuelle. Donc derrière les discours socialistes chavistes depuis la crise, donc le Venezuela est un pays qui est vraiment ouvert aux investissements étrangers et où la protection sociale est très faible et où les syndicalistes d'ailleurs sont poursuivis. Et Delcy Rodriguez donc a permis la réintégration d'acteurs étrangers dans le système pétrolier vénézuélien, notamment Chevron, notamment à partir de 2022 et d'autres plus petits acteurs. Donc elle s'est fait aussi des liens avec des acteurs, des majors pétrolières étrangères et elle est considérée comme étant une pragmatique économique qui est pro-marché, pro-business.
Chevron, la grande compagnie pétrolière états-unienne qui est sur place quasiment depuis la découverte des premiers forages, en tout cas pétroliers, les années 1920 dans le pays, qui a toujours dit « nous on reste là parce que au moins si la transition politique s'effectue au Venezuela, eh bien on aura ouvert la voie aux États-Unis ». Ça a créé pas mal de débats d'ailleurs, y compris avec l'opposition au régime vénézuélien en exil aux États-Unis. Alors sur la question du pétrole, Christophe Ventura, on a appris la semaine dernière que le pétrole vénézuélien pourrait être revendu sur le marché mondial, selon quel mécanisme, qu'est-ce qui commence à se dessiner?
C'est très simple. Les Américains ont mis une corde autour du cou vénézuélien avec le blocus maritime qu'ils ont mis en place.
Et sans s'en cacher du tout, c'est vraiment très ouvert.
Voilà, et ça, encore une fois, on dépasse un peu notre sujet, mais c'est dans une grande tradition états-unienne du blocus maritime dans la région, etc. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui rentre et tout ce qui sort au Venezuela est filtré par les bateaux américains. Donc c'est aussi simple que ça. Les Américains ont quelque chose en main, c'est que demain, ils peuvent serrer le nœud autour du cou vénézuélien ou le desserrer. Les Vénézuéliens sont en fait démunis et ne peuvent passer que par les Américains pour sortir ce qu'ils ont à sortir. Donc l'étape d'après, c'est quoi? C'est ce qu'a expliqué Marco Rubio. C'est très simple. C'est que les Vénézuéliens, ils vont continuer à produire leur pétrole. Ils vont non pas le vendre en direct à leurs clients, mais ça va passer par des compagnies américaines intermédiaires qui vont prendre le pétrole vénézuélien, qui vont le vendre aux compagnies extérieures. D'ailleurs, l'administration américaine a dit que dans ce cadre-là, ils continueraient d'en vendre aux Chinois et aux Russes, que finalement, on peut même se dire que peut-être ça faisait partie du calcul de départ, parce qu'on peut pas dire que les Russes et les Chinois aient montré vraiment une réaction si ferme que ça à ce qui s'est passé.
On parle en focus d'ailleurs de la réaction
Trump,
de la Chine.
Probablement va leur garantir que leurs intérêts seront pas complètement, effacés au Venezuela, mais c'est les Américains qui vont vendre le pétrole au prix du marché, ont-ils dit, et l'argent qui est récupéré, il va pas au Venezuela, il va sur un compte aux États-Unis, mais là aussi, privilège de l'Empire, un compte qui va être protégé, ça veut dire qu'en fait l'argent qui va arriver là, aucune loi, aucun contrôle, rien du tout ne peut être fait sur ça. Les Américains parrainent en quelque sorte l'argent qui va arriver sur ce compte et de cet argent, de ce compte-là, ils vont envoyer au Venezuela une partie de ce qui aura été récolté pour que les Vénézuéliens puissent continuer à faire fonctionner l'État et surtout abondent de fonds pour l'éducation et la santé et la reconstruction économique qui sera financée par cet argent. Donc, sous tutelle veut dire quelque chose de précis à ce moment-là, sur cet exemple-là, sous la tutelle des Américains qui leur donneront leur argent de poche, en quelque sorte.
Voilà, c'est là qu'on entend vraiment se dessiner une forme de mise sous tutelle, Serge Olivier. Sur la question du pétrole en particulier. Et là, il ne s'en cache pas, encore une fois, Donald Trump, quand il dit le Venezuela et son pétrole appartiennent aux États-Unis, on ne saurait être plus clair.
Oui, alors, et ça, c'est quelque chose qui va choquer les cultures politiques vénézuéliennes à moyen terme. Je pense que ce qui s'est passé le 3 janvier a mis les Vénézuéliens dans une situation de disjonction émotionnelle, parce que la grande majorité avait voté l'année dernière contre Maduro, une je pense que beaucoup de Vénézuéliens se sont réjouis de la fin du gouvernement Maduro, mais pas du tout de la façon dont ça s'est fait. Et du fait, notamment, de déclarer le lendemain, Trump l'a fait, donc, que le pétrole vénézuélien appartenait aux États-Unis, puisque c'est touché ce qu'un anthropologue et historien vénézuélien qui s'appelait Fernando Coronil a appelé l'un des deux corps de la nation vénézuélienne. Donc le premier corps, c'est le pueblo, c'est la représentation du peuple vénézuélien, et l'autre, c'est le territoire et ses richesses, et notamment surtout le pétrole. C'est au cœur de la construction nationale vénézuélienne que celle de l'appropriation des ressources pétrolières. D'un point de vue juridique, précisons que contrairement aux États-Unis, où c'est le seul pays du monde, je crois, où c'est comme ça, où les ressources du sous-sol appartiennent aux propriétaires fonciers du sol lui-même. Au Venezuela, comme dans toute l'Amérique latine, le sous-sol appartient à l'État et a toujours appartenu à l'État. C'est la conséquence du vieux droit castillan royal sur le sous-sol espagnol. Et puis donc ça, c'est la base juridique sur la possession même du pétrole. Et puis après, il y a la question des concessions. On pourra revenir, mais enfin, surtout, vous allez le faire demain, je crois, ou après-demain,
oui, une émission sur le
pétrole, sur l'évolution de la législation sur le pétrole. Mais en tout cas, ça choque une culture vénézuélienne bien ancrée, qui est celle donc de l'appropriation des ressources nationales.
Donc, si les États-Unis aujourd'hui ont mis en jeu cette question du pétrole, et notamment, en l'occurrence, on ne peut pas développer tous les aspects économiques que revêt aussi cette question du pétrole aux États-Unis et cette aubaine qu'il s'agit de défendre pour les États-Unis, ce pétrole vénézuélien, les devises en dollars, etc. Mais ce qui a d'abord servi de justification aux opérations militaires au large du Venezuela, jusqu'à l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse, ce sont, vous le rappeliez tout à l'heure, les accusations de narcoterrorisme. Est-ce que le président des États-Unis est-ce qu'il a ne serait-ce que cherché à démontrer ces derniers mois ce qu'il avançait? Est-ce qu'il a cherché notamment à apporter ce qu'il considère des preuves de ce que le président vénézuélien était impliqué dans un vaste trafic de drogue? À ce jour, qu'est-ce qu'on sait par exemple de tous ces navires sur lesquels l'armée états-unienne a tiré au large du pays et qui est donc accusé par les États-Unis de transporter de la drogue?
Pas grand-chose à ma connaissance. Hein, c'est
toujours pas.
Le Trump et notamment Pete Hegseth, donc le secrétaire à la défense, son ministre de la défense, le chef du Pentagone, ont déclaré que c'était des go fast, donc pour le dire rapidement, qui portaient du fentanyl, alors que le fentanyl ne passe pas par la Caraïbe et le Venezuela. Donc le Venezuela est une route pour le trafic international de cocaïne, qui s'est certes développé sous le chavisme, mais qui n'est pas à la mesure de ce qu'annonce l'administration Trump contre ses services nationaux. C'est-à-dire la DEA a déclaré que entre 8 et 10% de la cocaïne qui arrivait sur le territoire états-unien passait par le Venezuela. Donc c'est une route, certes, mais pas majeure, et ça reste le Mexique, ça reste le trampoline mexicain qui reste majeur. Et pour ce qui est du fentanyl, pas du tout. Donc il n'y a pas de preuves qui ont été apportées, il n'y a pas de suite qui ont été données à ces frappes. Il y a eu des demandes de la part des élus démocrates à la Chambre, et notamment des moments d'interrogation, notamment de Pete Hegseth, sur le fait qu'il ait lui-même coordonné les frappes et demandé l'achèvement, le fait d'achever les personnes qui auraient survécu aux frappes, qui nageaient à côté des bateaux. Donc ça a vraiment marqué aussi en novembre et en décembre l'actualité états-unienne.
À l'automne dernier, déjà, les États-Unis avaient placé le cartel des soleils, comme ils disent, sur la liste des organisations terroristes. Alors, il a déjà été beaucoup dit que ce cartel n'en est pas un, au sens où on l'entend par exemple en Colombie. Le cartel des soleils, c'est la façon dont les Vénézuéliens parlent de leur armée, les généraux qui n'ont pas d'étoiles sur leurs uniformes et des soleils. Néanmoins, ça n'interdit pas de se demander si l'armée vénézuélienne aurait ou pas favorisé la circulation de la drogue dans le pays. Ça n'est pas la question. En l'occurrence, la question est de savoir l'ampleur, et en effet, même les services de la DEA aux États-Unis disent que cette ampleur est bien moindre au Venezuela. Alors, il y a eu, je voulais peut-être vous faire dire un petit mot de ce que le parquet de New York publiait le 5 janvier dernier dans l'acte d'accusation de Nicolas Maduro. Donc, le cartel de Los Soles est mentionné à partir de la 8e page, mis au même niveau que les organisations criminelles mexicaines Sinaloa et Los Zetas. Et le document cite par ailleurs à plusieurs reprises que les États-Unis considèrent comme un repenti du régime vénézuélien un ancien chef des services de renseignement, Hugo Carjaval. Est-ce qu'on peut un tout petit instant s'arrêter sur cet homme auquel la revue 21 a consacré un long portrait? Le journaliste Clément Fayol avait rencontré au parloir de sa prison espagnole en 2022. Qui est-il et quel crédit apporter aux accusations que lui formule contre le régime? Parce qu'il me semble que cette histoire-là parle aussi des relations entre les États-Unis et le Venezuela, Christophe Ventura.
Bah écoutez, vous parliez du général qui était aussi le responsable du CEBIN, c'est ça ?
Hugo Carjaval, qui a été chef des services de renseignement, qui est en prison depuis déjà un petit moment et qui a été extradé aux États-Unis en 2023. Oui,
tout à fait. Bah, effectivement, enfin, de ce qu'on sait, ce qu'on peut lire, hein, c'est qu'il porte des accusations très claires, directes sur les liens entre l'entourage de Maduro et le narco, etc. Mais tout ça, si vous voulez, ça nous permet pas de répondre à la question que vous posez, dans le sens où à mon sens, d'abord, le narcoterrorisme, attention, c'est quelque chose qui n'existe pas en termes juridiques. C'est une définition qui est strictement américaine. Ce qu'on appelle narcoterroriste, sous-entendu, vous avez un État, et je reviens à M. Carjaval, le narcoterrorisme, c'est quand vous avez un État qui a une politique publique qui vise à faire de la drogue une ressource principale de l'État pour ensuite utiliser ces ressources pour menacer les intérêts d'un autre.
C'est ce que lui dit, en tout cas il dit que l'objectif de Caracas est d'utiliser la drogue comme une arme to weaponize contre les États-Unis.
Oui, mais ça c'est le discours de Washington, et si vous voulez...
Et surtout c'était pas le sien il y a déjà quelques années, voilà, il disait que c'était n'importe quoi.
Il est aussi exilé, qu'il est là-bas, qu'il collabore avec les Américains aussi, tout ça c'est quand même un jeu théâtral, mais ce que je voudrais dire moi c'est que n'oublions pas que, d'abord je reviens à votre question initiale, c'est-à-dire Donald Trump, n'oublions pas que c'est le président de la vérité alternative, il considère que ce qui est vrai c'est ce qu'on croit, donc Trump fait de la politique comme ça. Toute cette histoire de narcotrafic, bien sûr, elle s'assoit sur du réel. Il y a du trafic, le cancer de la drogue en Amérique latine,
le gang
c'est pas faux.
Aragua, au Venezuela.
Tout ça existe et c'est très clair. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que, je veux dire, le narco au Venezuela, c'est pas une organisation hiérarchisée dont Maduro était le chef. C'est tellement n'importe quoi, on peut le dire aussi aujourd'hui tranquillement, puisque l'acte dont vous parlez d'accusation a fait disparaître justement le fait qu'il était accusé pour être le chef du cartel des Soles. Ça n'existe plus, cette accusation. D'un coup, il est plus chef du cartel des Soles, qui a justifié 6 mois de mobilisation militaire. Et en plus, ce qu'on sait moins, c'est que dans la version précédente de ce document, on l'accusait lourdement de liens avec des narcotrafiquants au Honduras. Tout ça a disparu de l'acte d'accusation, il n'y a plus du Honduras. Et M. Trump, qui est très attaché au narcotrafic, pourquoi il n'y a plus le Honduras ? Parce qu'il a fait libérer, juste avant tout cela, l'ancien président Hernandez, pour aller appuyer son candidat qu'il a fait élire au Honduras, donc il a dit qu'il était le vainqueur, et tout ça n'existe plus. Donc vous voyez, on est dans
quelque
chose...
Il avait été condamné en 2024 à 45 ans de prison.
Quelque chose qui n'est que politique.
Serge Olivier.
Non, le Carvajal, lui, a lui-même été poursuivi en 2008 hein, par des sanctions états-uniennes pour trafic de drogue et collusion avec les FARC. Donc c'est pas l'ancien directeur de la CEBIN, à pas confondre.
C'est pas
Christopher Figueroa qui a tenté un coup d'État en avril 2019 contre Maduro, même si Carvajal, en 2019, s'est retourné contre Maduro. Il avait été poursuivi avant, ça avait été une longue histoire. Il avait été défendu par le Venezuela parce qu'il était sous passeport diplomatique à Curaçao, parce qu'il était consul. Bref, en tout cas, sur ces questions de collusion avec le narcotrafic, donc vous l'avez dit, le cartel des Soleils, c'est pas vraiment un cartel, c'est pas une organisation hiérarchisée, effectivement. C'est juste toute une succession de collusions d'acteurs régaliens vénézuéliens qui, plus ou moins individuellement ou en groupe, ont offert des garanties ou faire des voies de passage à des acteurs plus organisés, qui sont surtout des Mexicains, dans le trafic international de cocaïne. De ce point de vue-là, effectivement, je suis d'accord avec Christophe Ventura pour dire que le narcotérisme n'est pas une politique d'État de la part du Venezuela, mais c'est en fait une façon de gérer le pouvoir vénézuélien, c'est-à-dire que la corruption, c'est, dans le cadre du chavisme, et notamment le fait de laisser des trafics de drogue se faire auprès de toute une succession d'acteurs, c'est se faire des loyautés. Et puis, si on se retourne contre le pouvoir central, c'est une façon de pouvoir poursuivre ceux qui se retournent. Donc, c'est une façon de gérer le pouvoir que de laisser prendre certains acteurs, notamment militaires, par partie prenante dans le trafic international de cocaïne, de drogue, pour pouvoir les reprendre après. Et en fait, d'une certaine façon, les États-Unis ont fait l'inverse, ont utilisé cette même stratégie vis-à-vis du Venezuela de Maduro, c'est-à-dire utiliser toutes ces collusions qui ont été laissées à des acteurs sous l'égide de Chavez puis de Maduro, pour pouvoir les attaquer. Et de ce point de vue-là, effectivement, le narcoterrorisme, c'est utilisé par les États-Unis pour paver la voie à une intervention non pas contre un État, mais contre une organisation terroriste supposée, dans la lignée des interventions de 2001-2003 contre le terrorisme et non pas contre des États étrangers.
Un tout petit mot, Christophe Ventura, vous
voulez ajouter quelque chose ? Oui, non, je veux juste rajouter que le drame dans cette affaire, c'est que tous les phénomènes qu'on observe au Venezuela liés à la corruption, l'affairisme, mais aussi le trafic de drogue pour les cellules qui sont impliquées dedans, toutes les collusions, ce que vous avez expliqué, etc. Le problème, c'est que c'est aussi des phénomènes qui sont nourris et intensifiés par quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui sont les sanctions américaines. Les sanctions américaines qui pèsent sur ce pays depuis 2019, comme souvent on l'a vu dans d'autres pays, la vérité, c'est que c'est les sanctions qui produisent aussi les problèmes qu'on veut régler, c'est-à-dire qu'elles alimentent l'affairisme, la contrebande. C'est le vieux principe de la prohibition, si vous voulez. Quand vous interdisez à des pays de commercer avec le reste du monde, eh ben vous avez des zones grises et des zones parallèles qui s'organisent. Et quand le pays s'effondre économiquement, les opportunités qui sont liées à la corruption, aux narcos, etc., bien sûr, eh bien, aiguisent des appétits nouveaux et font que beaucoup de gens rejoignent ces trafics-là aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'analyse.
Serge Olivier, aujourd'hui, c'est vrai que le débat paraît sans fin entre ceux qui expliquent la très grave crise économique au Venezuela par les sanctions états-uniennes exclusivement et ceux qui en font porter la responsabilité en grande partie sur la corruption qui mine le Venezuela à tous les échelons et pas seulement depuis les années de Chavez, bien avant, puisque la révolution bolivarienne justement entendait, en tout cas le coup d'état de Chavez lors de ses premières années quand il a ensuite été élu en 98, il entendait mettre fin à la corruption pour mieux répartir les richesses. Dans cette bataille finalement assez idéologique aussi, comment mettre les éléments et les chiffres à plat, ce qui relève des États-Unis, ce qui relève de la corruption.
Alors, les sanctions américaines, états-uniennes contre le Venezuela comme État, elles commencent en 2017, avec des sanctions surtout sur financières qui ferment à Caracas la possibilité d'émettre d'acheter de la dette, donc sur les marchés états-uniens en dollars. Et elles deviennent extrêmement fortes, surtout à partir de 2019, en soutien à l'initiative Guaido, on va peut-être reparler, notamment sur le pétrole vénézuélien, et notamment la mise sous fiducie de l'entreprise Citgo, qui appartenait au Venezuela à l'époque, et qui était vraiment une vache à lait, une rentrée de dollars importante pour le Venezuela. Cela étant dit, la crise économique au Venezuela, elle a commencé en 2013-14. Ces sanctions américaines, elles ont aggravé, dramatiquement certainement, une crise économique qui était déjà la pire crise économique de l'histoire du Venezuela, et qui est tout à fait imputable au bilan de Chavez et de Maduro. Ça, c'est clair. Donc il faut donner des causes pour des responsabilités aux deux. La crise économique, elle commence dès 2013-14, même avant la chute des cours du pétrole qui ont lieu en printemps 2014. En 2013, on est sur une inflation de 100% au Venezuela. Et la chute des cours de 2014 accueillit une économie vénézuélienne qui, après 10 ans de rentrée de pétrodollars massifs, était déjà en manque de liquidité. Et ça, on pourra en discuter très longtemps, mais c'est le bilan de Chavez, véritablement.
On peut en effet en discuter très longtemps, opposer certains arguments qui ne manquent pas et engager une grande discussion à ce sujet. Et je trouverais ça passionnant, mais je voulais vraiment qu'on replace cette séquence aussi dans une histoire plus longue des relations entre le Venezuela et les États-Unis. Ça nécessiterait une émission entière aussi. Du reste, il y en a déjà eu et on en a consacré aussi à la doctrine Monroe qui date de 1823. Sa réactualisation par Donald Trump au lendemain même de l'arrestation de Nicolas Maduro et de sa femme. Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau, cette doctrine d'Onro, dans les termes, on peut en citer quelques extraits, après des années de négligence, les États-Unis réaffirmeront et appliqueront la doctrine Monroe pour rétablir la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental et protéger notre territoire national ainsi que notre accès aux zones géographiques clés de la région. Qu'est-ce qui vous a intéressé, interpellé dans ce texte version 2026?
Oui, qui a été publié en date de novembre dernier, mais publié début décembre, et qui manifestement est illustré par cette action du 3 janvier. Manifestement, cette intervention américaine au Venezuela, c'est une façon de crédibiliser ce texte aussi, pas seulement vis-à-vis du Venezuela, mais de toute la zone et vis-à-vis de tous les acteurs extérieurs, notamment la Chine et la Russie.
D'accord, mais il la précède, alors vous faites bien de le préciser.
C'est manifestement une époque qui se ferme et qui s'était ouverte à la fin de la guerre froide. De 1990 environ jusqu'à 2025, les États-Unis n'ont pas donné une priorité géostratégique à l'Amérique latine comme c'était le cas avant. Et cette époque est fermée et maintenant évidemment On s'est dit, vous l'avez cité, l'hémisphère occidental, c'est la première région listée dans ce document, parmi toutes les régions du monde, en termes de priorité pour les États-Unis. Et il réaffirme ce qui était affirmé déjà dans la doctrine Monroe, et surtout son corollaire Roosevelt de Theodore Roosevelt en 1904, qui était celle d'exclure toute puissance extérieure de la zone, premièrement, et deuxièmement aussi défendre, ça c'était le corollaire Roosevelt de 1904, défendre les intérêts privés de façon très pragmatique et autoritaire des entreprises américaines, surtout dans les Caraïbes et dans les républiques centra-américaines, par des interventions armées. C'était notamment le cas de l'occupation du Nicaragua entre 1912 et 1931. Et ça, c'était pour défendre des intérêts, notamment de la United Fruit Company. C'est bien connu, les fameuses républiques bananières, donc défendues par des intérêts états-uniens. Voilà, après cette époque du gros bâton, donc, qui a duré jusqu'en 1934, qui a été remplacé après par par la politique du bon voisinage, donc de Franklin Roosevelt, cette fois-ci, qui était celle, donc, d'une gestion d'une hégémonie états-unienne par une sorte de multilatéralisme sous hégémonie états-unienne. A donné lieu à 30 années environ de non-intervention états-unienne dans la zone. Mis à part tout de même l'intervention directe états-unienne en 1954 au Guatemala, qui a été extrêmement marquante pour les latino-américains. Che Guevara était sur place à l'époque, par exemple. Et donc, la guerre froide, c'est une époque, jusqu'en 1990, d'enjeux idéologiques, pas seulement économiques pour les États-Unis dans la zone, et de sécurité, suite à l'affaire cubaine de 1962, qui s'est fermée en 1990, et puis 2001, l'attaque du 11 septembre, a orchestré un pivot vers le Moyen-Orient. Le pivot est maintenant latino-américain.
Pendant la guerre froide, on avait juste envie de vous faire écouter cette archive, puisque les relations étaient plutôt bonnes entre le Venezuela et les États-Unis. À l'époque, les États-Unis avaient déployé le plan dit Alliance pour le progrès entre Amérique du Nord et du Sud pour empêcher ce qu'ils appelaient la contagion communiste. Jackie Kennedy, par exemple, s'était adressé aux Vénézuéliens lors d'un déplacement de son président de Marie en 1961.
Me alegro haber podido acompañar mi marido a Venezuela.
Je suis heureuse d'avoir pu accompagner mon mari au Venezuela. La distinction et l'importance de votre culture m'étaient déjà connues. J'ai également été impressionnée par vos efforts pour améliorer les conditions de vie de votre peuple. Je sais qu'aucune épouse, ni mère, ni père, aucune famille de ce continent ne seront satisfaits tant que les habitants de tout le pays n'auront pas accès à un travail bien rémunéré, qu'ils ne pourront vivre dignement et recevoir une éducation. Toutes ces choses devraient être à la portée de tous et non réservées à quelques privilégiés.
Jackie Kennedy en 1961 lors d'un déplacement au Venezuela, et pendant ce temps, Serge Olivier, Fidel Castro, lui, menait sa révolution cubaine, et il faut avoir en tête cette chronologie-là pour comprendre ce qu'ont été à un moment les relations entre Caracas et Washington.
Oui, à partir de 59, du 1er janvier 1959, dans les relations entre Caracas et Washington, il y a toujours le dossier cubain castriste en ligne de mire. Deux dates, rapidement, le 23 janvier 1958, le dictateur Pérez Jiménez donc tombe à Caracas, s'ouvre une période de démocratisation, c'est le début de la 4e République vénézuélienne qui a été remplacée par la 5e de Chavez en 1999. Et un an après, le 23 janvier 1959, à peine plus de 3 semaines après le succès de la révolution cubaine à La Havane, Fidel Castro se rend pour son premier voyage officiel à l'étranger à Caracas. Il est ovationné, il est extrêmement populaire, il est encore consensuel à l'époque. Et entre-temps, entre ces deux dates, donc, s'est opérée une transition démocratique, l'élection de Raúl Betancourt, qui est donc le chef du Parti social-démocrate au Venezuela, le Parti Action démocratique, qui est sur une ligne qui va rencontrer celle de John Fitzgerald Kennedy, qui est celle de développer des gouvernements de centre-gauche anticommunistes, et notamment la doctrine Betancourt, qui est celle donc de son gouvernement au sein de l'Organisation des États américains, qui est celle de ne reconnaître que des gouvernements démocratiques. Donc, à droite comme à gauche, c'est-à-dire qu'il s'oppose au régime dictatorial de Trujillo en République dominicaine, qui essaie d'assassiner Betancourt à plusieurs reprises, et il s'oppose aussi au régime castriste. Et c'est un moment dramatique dans l'histoire vraiment vénézuélienne, et un moment fondateur entre 1958 et 1962 des cultures politiques vénézuéliennes autour de la question notamment cubaine, qui est centrale. C'est-à-dire que ce qui, par la suite, est appelé dans les années 70 la izquierda au Venezuela, c'est-à-dire la gauche, qui est la gauche marxiste, la gauche révolutionnaire, est une gauche pro-Cuba, plus ou moins pro-Cuba, mais en tout cas anti-états-unienne, anti-impérialisme états-unien. Et ce clivage politique-là s'est fait entre 59 et 62.
Donc jusque, enfin, des bonnes relations aussi qui perdurent jusqu'en 98, l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez. Alors avec bien sûr des hauts et des bas, et on peut pas revenir sur toute l'histoire du Venezuela, mais quand Chavez arrive élu avec plus de 56% des voix, 6 ans après avoir tenté un coup d'État et s'est fait connaître en particulier auprès de la jeunesse vénézuélienne, et bien pendant les 10 premières années de Chavez au pouvoir, c'est aux États-Unis George W. Bush qui lui est aux affaires, et les deux hommes, c'est peu de dire, se détestent.
Hier, le diable était ici. Cet endroit sent encore le soufre. Hier, mesdames et messieurs, à cette même tribune, monsieur le président des États-Unis, celui que j'appelle le diable, est venu. S'exprimant comme le propriétaire du monde. Il veut la paix, mais que se passe-t-il en Irak? Que se passe-t-il au Liban et en Palestine? Que s'est-il passé ces 100 dernières années en Amérique latine?
Hugo Chavez, en 2006, lors d'une Assemblée générale des Nations Unies, qui donc parle de George W. Bush comme du diable. Il l'accuse d'ailleurs à cette époque de tentative de coup d'État depuis 2002. Peut-être pour conclure cette première partie, Christophe Ventura, un mot sur la coopération économique qui a toujours perduré, me semble-t-il, entre le Venezuela et les États-Unis, malgré les tensions politiques, diplomatiques, plus ou moins fortes selon les époques.
Oui, ça peut apparaître comme un paradoxe, mais pour toutes les raisons qu'on a un petit peu touchées du doigt avant, je veux dire, toute l'économie vénézuélienne à partir des années 20 a été organisée autour d'une seule filière, qu'est le pétrole. Tout ce pétrole et toute l'industrie qui va avec a été mise en place essentiellement d'abord par les Anglais et les Américains, et à partir des années 50, avec une hégémonie sans partage quasiment des Américains. Il y avait d'autres compagnies, mais surtout les Américains. Il faut comprendre, pour simplifier, que tout le pétrole vénézuélien depuis 80 ans au moins, il est pompé au Venezuela, il part avec un tuyau et il allait directement aux États-Unis, en particulier au Texas, où on avait construit tout le secteur des raffineries pétrolières américaines pour précisément raffiner le pétrole vénézuélien. Donc c'est ça l'histoire de la coopération économique, et c'est ce à quoi n'ont pas mis un terme la révolution bolivarienne, comme on dit parfois trop vite. C'est pas vrai, effectivement, qu'il y a eu une rupture avec les États-Unis. Il y a eu une diversification des alliances vénézuéliennes, et puis il y a eu une dégradation des relations avec Washington, non pas après la tentative de coup d'État, mais le coup d'État qui a eu lieu contre Chavez en 2001 et qu'ont appuyé les États-Unis.
Donc des alliances qui se sont faites ensuite, que le Venezuela a essayé de nouer un peu tous azimuts avec d'autres partenaires, y compris la Chine. Et voilà, et c'est peut-être aussi cette attaque militaire des États-Unis contre le Venezuela, une façon de mettre à distance la Chine qui a pris beaucoup de place sur le continent et en particulier au Venezuela.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Je vous souhaite la bienvenue, monsieur le président Nicolas Maduro, qui effectuait une visite d'État en Chine. Il s'agit de votre 5e visite en Chine depuis votre élection à la présidence. Cela reflète pleinement l'amitié fraternelle entre la Chine et le Venezuela. La Chine continuera à soutenir fermement les efforts de la partie vénézuélienne pour garder la souveraineté nationale, la dignité nationale, la stabilité sociale et la juste cause du Venezuela qui s'oppose à l'ingérence extérieure.
Xi Jinping qui accueille Nicolas Maduro au Grand Palais du Peuple à Pékin en 2023. Bonjour Iris Marjolais.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Vous êtes associée, chercheuse associée au Centre Thucydide de l'Université Paris 2 Panthéon Assas et autrice d'une thèse intitulée « La recomposition de la scène de défense latino-américaine, la Chine, les États-Unis et les États sud-américains ». D'abord, à quand remonte-t-elle cette alliance nouée avec la Chine et en quoi consiste-t-elle ?
Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, la Chine devient un partenaire économique et politique donc important du Venezuela. Donc, à partir de 1998, donc lorsque Chavez arrive au pouvoir, et puis la relation donc se développe et commence à prendre forme en 2001. Donc les deux pays vont établir un partenariat stratégique. Donc il faut rappeler que le Venezuela est le premier pays hispanophone de la région à bénéficier donc de ce statut particulier. Et puis il faut dire aussi que la relation est structurée autour de l'énergie qui constitue le moteur principal de la relation. Donc CNPC, la principale compagnie pétrolière chinoise, est historiquement donc le partenaire le plus important dans l'industrie pétrolière vénézuélienne. Et cette relation a été scellée ensuite donc autour d'un mécanisme de prêt. Donc Pékin octroie des prêts donc qui sont adossés aux livraisons de pétrole vénézuélien donc à des prix préférentiels. Et entre 2007 et 2016, le Venezuela a reçu la moitié donc des prêts totaux chinois dans la région, donc environ 60 milliards de dollars.
Jusqu'en 2015, parce qu'ensuite, ou 2017,
2016.
Ou 2016, parce que les prêts ont fini par s'arrêter. Pourquoi la Chine ne voyait pas concrètement à quoi servait l'argent qu'elle prêtait?
Exactement, en fait, la relation n'a pas été à la hauteur en fait des attentes de Pékin, puisque à la mort de Chavez, donc en 2013, la relation a commencé à se dégrader et en fait à se diriger donc vers une phase marquée par un refroidissement diplomatique, donc qui va culminer entre 2016 et 2023, donc dans un contexte de grave crise économique, où le Venezuela demande à Pékin donc un rééchelonnement de sa dette et puis stoppe les prêts donc en 2016, donc à tel point qu'en fait les experts parlent de piège de la dette, donc non pas pour le Venezuela mais pour la Chine. Et aujourd'hui, il faut donc rappeler que cette dette est estimée entre 10 et 12 milliards de dollars.
Quand Nicolas Maduro se rend en Chine, et il l'a déjà fait à 5 reprises depuis le début de son mandat ou ses mandats, est-ce que ces visites ont toujours donné lieu à de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats?
Alors, entre 2016 et 2023, j'étais en Chine en 2018, et on ne pouvait pas parler de Venezuela. Les relations étaient très tendues et très, très sensibles, puisqu'il y avait en Chine, à l'époque, déjà des critiques internes d'experts, de chercheurs qui critiquaient en fait le montant alloué par la Banque de développement chinoise au Venezuela et en fait en soulignant une prise de risque en fait inconsidérée. Donc il y a eu vraiment un refroidissement des relations et vous l'avez passé tout à l'heure l'extrait où 2023, Maduro finalement se rend à Pékin pour renouer les relations, donc première fois depuis 6 ans. Et là, les deux pays signent un partenariat à toute épreuve et de tout temps, qui donc repropulse en fait, qui montre que voilà, le Venezuela, que la Chine soutient le Venezuela, du moins en matière rhétorique. Et puis dernièrement, donc cette dernière phase de relations, où là, on a une compagnie privée chinoise qui a investi donc dans les champs matures situés dans le bassin Maracaibo pour donc pomper du pétrole et voilà donc ça mais ça c'est des investissements privés et récents qui ont bénéficié en fait de l'ouverture du secteur récente.
Et dans quelle mesure Iris Marjolais l'attaque militaire des États-Unis a mis en suspens ce partenariat? Est-ce qu'on sait déjà concrètement, par exemple, si les contrats d'exploitation sur le lac Maracaibo par des compagnies pétrolières chinoises sont toujours en cours? Enfin, est-ce qu'on sait si ça a des conséquences vraiment très directes sur ces relations-là?
Alors, très très bonne question. Je pourrais pas vous répondre parce que c'est vraiment du il faudra
de
voir
l'immédiat.
De l'immédiat. Mais c'est sûr que se pose la question donc de la restructuration de ces dettes, donc qui restent conséquentes, 10 à 12 milliards qui sont remboursables en livraison de pétrole. Se pose aussi la question donc des contrats, bon parce que PDVSA a dans une structure donc de société mixte des contrats avec les compagnies pétrolières chinoises, CNPC, Sinopec, et puis la China Concord Resource Corp, donc cette compagnie privée qui a investi récemment. Donc à voir comment, si ces contrats vont être remis sur le tapis, reconsidérés. Et donc difficile de prévoir si les livraisons de brut vont continuer. Ce qu'on peut dire, c'est que la Chine a toujours été pragmatique et quand elle a déjà contourné par le passé ces sanctions américaines, substitué le brut vénézuélien avec du pétrole en provenance d'autres États. Et à court terme, il y a des stocks de pétrole extra lourd qui sont en attente. Donc pour l'instant, bon, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Mais évidemment, on peut se poser aussi la question des conséquences possibles en termes commerciaux, puisque Trump va imposer au Venezuela probablement d'acheter américain et ça risque d'affecter les intérêts de la Chine.
Les alliances entre la Chine et le Venezuela ne portaient pas que sur l'énergie jusqu'à présent. On parle aussi d'infrastructures, d'aide militaire aussi. Est-ce que on sait dans quelle mesure la Chine a fourni une aide militaire, de quelle nature? Et quand Nicolas Maduro, quand l'armée états-unienne commençait déjà sérieusement à menacer le pays, il y a plusieurs mois, se revendiquait de plusieurs milliers de missiles anti-aériens et même de miliciens sur place. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure la Chine éventuellement pouvait y participer?
Oui, alors donc il faut rappeler deux choses. Alors déjà, l'obsession des cercles de la défense américains donc pour la présence chinoise au Venezuela, mais plus largement en Amérique latine. Donc obsession, enfin qui est décriée à partir de 2004-2005 dans les documents du Southcom, les rapports de la communauté de sécurité américaine devant le Congrès américain, qui montrent que la Chine et l'élargissement de sa présence militaire dans la région, donc est déjà une préoccupation. Donc le Venezuela, il est dans le viseur de la défense américaine, notamment donc en raison, vous l'avez dit, donc des exportations d'armement chinoises au Venezuela. Donc le Venezuela a reçu près de 90% des armes chinoises en Amérique latine depuis 2007. Et ces fameux donc radars de surveillance longue portée et le radar JY-27, donc qui était censé détecter les avions furtifs et qui n'a pas fonctionné ou en tout cas qui a été désactivé par les États-Unis lors de l'opération. Et donc c'est pour la Chine, enfin la deuxième chose qu'on peut mettre en lumière, c'est pour la Chine, enfin au-delà de ces questions, l'intervention militaire des États-Unis permet un gain diplomatique pour Pékin. Parce que il faut savoir qu'au niveau des livraisons d'armement, elles se sont stoppées aussi en 2016. Il y a eu une dernière petite livraison en 2023 quand le partenariat a été renouvelé. Mais en tout cas, au-delà de ces questions, l'intervention militaire des États-Unis permet un gain diplomatique pour Pékin qui se situe, donc il faut replacer dans le prolongement de l'action chinoise en Amérique latine plus généralement, puisque cette intervention permet d'alimenter donc un discours que Pékin propage déjà auprès de ses partenaires, qui est de dépeindre les États-Unis comme une puissance belliqueuse, hégémonique, c'est-à-dire donc tout le contraire de Pékin, et qui leur permettent de se placer en contrepoint des États-Unis.
En contrepoint pacifiste, déjà en août et septembre, quand il y avait eu des frappes états-uniennes au large du Venezuela, la Chine aurait envoyé, dit-on, un bateau hôpital pour soigner les personnes blessées. Iris Marjolais, c'est vous qui nous avez expliqué tout ça. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses très précises. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'INALCO et associé au centre Thucydide de l'Université Paris 2, Panthéon Assas. Peut-être un tout petit mot de conclusion avec nos invités. Christophe Ventura, dans quelle mesure aujourd'hui vous observez Pékin réel? Les relations entre le Venezuela et la Chine, comment, à très court terme, vous les voyez évoluer?
Deux choses. Ah, pardon.
Non, allez-y.
Non, deux choses. La première, c'est que la dernière apparition publique de Nicolas Maduro avant d'être enlevé, c'est avec le représentant personnel de Xi Jinping, pour signer des accords de coopération. Donc les Chinois, ce qui les intéresse, c'est pas tellement Nicolas Maduro, ce qui les intéresse, c'est les ressources du Venezuela. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les États-Unis, probablement, vont leur garantir quand même un certain accès encore à cela. Et je pense que les Chinois, du coup, ça va marcher comme ça. Et comme c'est la conclusion, simplement, il faut comprendre que la trajectoire du Venezuela est indissociable d'une réflexion sur les relations conflictuelles entre le régime chaviste, l'opposition et ses franges radicales, et les États-Unis. C'est les 25 dernières années de ce pays.
Même si vous, Serge Olivier, vous vous concentrez beaucoup sur l'histoire du Venezuela pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer en quelques mots.
Pour comprendre la dynamique des sociétés vénézuéliennes, il faut partir du Venezuela, même après ce qui s'est passé le 3 janvier. Bon, là, on est vraiment dans une actualité qui est celle d'un retour violent et vraiment prédateur des États-Unis dans la zone. Et pour comprendre le chavisme aussi. Et de ce point de vue-là, la yankee-phobie qui a été évoquée par Iris Marjolais pour justifier les accords avec la Chine a été aussi vraiment un discours de maîtrise politique de la part du chavisme. Ça a été après le coup d'État de 2002, donc Chavez a accusé les États-Unis d'avoir fomenté ce coup d'État. Ça a été vraiment une matrice discursive, ça a été aussi un exercice de style, de démonstration, de loyauté au sein du chavisme. Qui critiquait Chavez, qui critiquait Maduro, était forcément yankee.
Merci beaucoup et on essaiera de développer encore cette question demain. Merci beaucoup à tous les deux, Serge Olivier et Christophe Ventura, d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de notre série consacrée au Venezuela. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Catherine Dutu, en Indonésie ce matin, des communautés locales s'opposent au projet d'extension d'une usine de géothermie.
dans un pays qui s'est fixé pour objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2060, l'énergie géothermique est un axe crucial pour l'Indonésie, souligne le Jakarta Post. Elle convertit la vapeur d'eau sous pression, piégée dans les profondeurs de la croûte terrestre, en électricité. Mais ce tournant énergétique se fait au prix de la santé des autochtones, alerte Floresa, média indépendant, basé sur l'île de Flores, dans l'est de l'Indonésie. La présence de volcans sur l'île, leur température élevée, facilite l'exploitation géothermique. Et c'est donc là, sur la ceinture de feu du Pacifique, que 4500 villageois pourraient être expulsés à cause du projet d'extension d'une usine de géothermie, vous le disiez. Et toute opposition est sévèrement réprimée par les autorités indonésiennes, ajoute le média Forbidden Stories, qui poursuit les travaux de journalistes menacés, à l'instar du rédacteur en chef de Floresa, roué de coups au visage, à la poitrine, pour avoir couvert une manifestation contre l'usine géothermique. Un opposant au projet d'extension a lui été retrouvé pendu dans sa hutte en bambou début septembre. Sa famille soupçonne un acte criminel, précise le quotidien indonésien Kompas et le média américain Mongabay, spécialisé dans l'actualité environnementale. Alors que les attaques contre les défenseurs de l'environnement ont plus que doublé l'an dernier en Indonésie. Les communautés autochtones de Pokoleok, sur l'île de Flores, décrivent, elles, auprès de Floresa et de Forbidden Stories, des risques pour la santé et pour l'environnement, problèmes respiratoires, problèmes cutanés, causés par les émanations d'hydrogène sulfuré qui s'échappent des puits de géothermie au détriment des zones de culture vivrière. On ne nous écoute pas, on ne nous respecte pas, dénonce Maria Temé, qui cultive des terres sur l'île de Flores à Pokoleok. Certains d'entre nous ont de l'asthme, mais notre économie va pâtir de tout ça. Alors bien sûr, le gouvernement dit que tout va bien, mais c'est parce qu'ils ne pensent qu'au profit. Ils se sont fait laver le cerveau, l'argent, l'argent, l'argent. Mais il y a des gens ici, on n'est pas des animaux, tempête cette paysanne indonésienne. Une situation alarmante au point de faire douter les soutiens internationaux au projet d'extension d'usines de géothermie sur l'île de Flores. Une banque de développement allemande, Note Forbidden Stories, dénonce l'absence d'un réel consentement des communautés locales.
19 morts, Catherine, c'est le bilan encore provisoire des incendies qui ravagent le sud du Chili.
Les plus dévastateurs depuis des années, titre le quotidien chilien El Mercurio. 25 000 hectares brûlés, ajoute le journal La Tercera. Des feux hors de contrôle, attisés par des vents chauds, violents et des températures à plus de 30 degrés dans les régions de Nublé et du Biobío, à environ 500 km au sud de la capitale, Santiago. Difficile d'y larguer de l'eau avec des avions bombardiers, analyse le journal de l'Université de Santiago, car le terrain est accidenté parce que la température au sol est si élevée que l'eau s'évapore aussi. Paysage de désolation dans la ville portuaire de Lierquen, 20 000 habitants. Chilevisión Noticias montre des tôles et des arbres noircis, du béton encore fumant.
Así quedó Lierquen, quemado por todos lados.
Lierquen a été complètement ravagée par les flammes. La maison de mes tantes et celle de ma mère sont toutes brûlées, raconte un habitant de cette ville portuaire dans une vidéo diffusée par Chilevisión Noticias. Le feu continue de se propager vers le centre. Il y a des voitures calcinées partout et plus haut encore, tout est brûlé. Il ne reste plus rien. C'est terrible, se désole ce Chilien. Le président Boric a décrété hier l'état de catastrophe naturelle, annonce la Nación, ce qui permet notamment de déployer l'armée en soutien aux 3000 pompiers déjà mobilisés. Mais pour l'ancien directeur de la Corporation Nationale Forestière, interrogé par le journal de l'Université de Santiago, la situation actuelle révèle le manque de prévention contre les incendies au Chili. Pas assez de zones débroussaillées, pas assez de ressources financières, si bien qu'éteindre cet incendie pourrait prendre plus de temps que d'habitude, prévient le journal de l'Université de Santiago du Chili, alors que le pays est de plus en plus souvent frappé par de gigantesques feux de forêt, rappellent les quotidiens La Tercera et El País, avec d'autres catastrophes en 2017, 2023, 2024, avec alors 138 morts autour de Viña del Mar, au nord-ouest de Santiago. Le changement climatique augmente le risque d'incendie au Chili, mais aussi leur intensité, alerte cette fois le journal de l'Université australe du Chili, ainsi que les quotidiens El Mercurio de Valparaíso et El País. Des températures de plus en plus chaudes, le manque de pluie contribue à dessécher la végétation et les sols. Il est temps de développer une gestion forestière préventive, souligne le journal de l'Université australe du Chili. Il faut repenser le couvert forestier, limiter certains types de végétation qui aident à propager les incendies, tels que les eucalyptus, déjà interdits dans certaines régions du Portugal.
Merci Catherine Dutu.